Tour en compagnie de son réalisateur Miguel Gomes. Suivez à travers l'Asie d'il y a un siècle la course-poursuite amoureuse de Molly et Edward dans un étonnant dialogue entre images d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous demain à 20h au Méliès à Montreuil. Infos et réservations sur franceculture.fr.
Dans la seconde partie de Questions du soir, on va s'intéresser à la géo-ingénierie. Mais tout de suite, l'heure du journal, il est 19h. Journal présenté par Aurélie Kiefer.
Au procès de l'assassinat de Samuel Paty, la Cour d'assises spéciale de Paris examine les faits reprochés aux accusés. Ils sont 5 poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes, 2 pour complicité, le crime le plus grave pour lequel les 2 anciens copains de l'assassin encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Une journée entière d'interrogation pour l'un d'eux, Azim Epsirkanov, 23 ans aujourd'hui, qui nie toujours avoir eu connaissance des intentions terroristes de son ami Florence Turm.
Ses proches et les experts l'ont décrit comme un jeune homme sociable et souriant. Très droit dans le box, veste bleue sur chemise blanche, il confirme ton calme et déférent. Pour répondre à la première question du président sur le blasphème, c'est le droit de critiquer la religion. Plutôt le fait d'outrager la religion, corrige le magistrat. La religion, loin de ses préoccupations quotidiennes. Ma mère a essayé de me réveiller pour la prière, mais j'avais d'autres centres d'intérêt, les réseaux sociaux, les copines. Pratique libre dans sa famille, à 1000 lieues de celle d'Abdullah Kanzo. Son pote du collège. En troisième, son père a découvert son compte Facebook. J'ai assisté au tabassage à coups de poing au visage. J'étais choquée. Il affirme en revanche ne pas avoir noté de signes de radicalisation, n'avoir jamais été au courant des intentions d'Anzorov. Il a pourtant expliqué à des collégiens les raisons de sa présence et avec vous, il n'évoque pas cette préoccupation qui l'obsède, s'interroge le président. Non. Au café, le matin des faits, il est très détendu, il ne parle pas des caricatures, il ne parle de rien. La veille, ils se sont arrêtés dans un magasin de Rouen pour acheter un couteau, 20 euros, un cadeau pour son grand-père, lui aurait dit l'assassin. Je me dis que le couteau est plutôt moche et lui, plutôt radin. Ce jour-là, Anzorov lui a d'abord demandé de lui procurer une arme. Azim Epsirkanov a simplement fait le lien avec une rixe mortelle où un jeune Tchétchène avait récemment trouvé la mort. Et vous ne vous dites pas arme, couteau, alerte, reprend le président. Ça fait quand même beaucoup.
Florence Turm. Le prix Goncourt 2024, au cœur d'une polémique en Algérie, Kamel Daoud et son épouse psychiatre sont accusés d'avoir utilisé l'histoire d'une patiente pour l'écriture du roman Houri. 2 plaintes ont été déposées à leur encontre. Le Parlement a définitivement approuvé la réforme du financement de l'audiovisuel public. Le mécanisme mis en place depuis la suppression de la redevance est pérennisé. La loi prévoit un financement par l'affectation annuelle d'un montant d'impôt d'État, a priori une fraction de la TVA. Les États-Unis empêchent le Conseil de sécurité de l'ONU d'appeler à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza. Un nouveau veto dénoncé avec force par les Palestiniens. Pour l'autorité palestinienne, les États-Unis encouragent Israël à poursuivre ses crimes. Et puis, nouvelle illustration des difficultés du secteur automobile, le constructeur américain Ford annonce 4000 nouvelles suppressions d'emplois en Europe d'ici 2027, principalement en Allemagne et au Royaume-Uni. 19h03, c'est à vous Quentin Lafay pour la seconde partie de Questions du soir.
Merci beaucoup Aurélie Kiefer. Seconde partie consacrée comme chaque soir à l'actualité des idées et de la recherche. Et ce soir, un terme dans la lumière, celui de géo-ingénierie.
France Culture, Questions du soir, Quentin Lafay.
Alors que la 29e COP pour le climat se tient présentement en Azerbaïdjan, nous avons voulu interroger un terme ce soir, un domaine de recherche et de fantasmes, un ensemble d'initiatives aussi, de plus en plus concrets qui entend lutter contre les effets du réchauffement climatique, j'ai nommé la géo-ingénierie, soit des techniques de manipulation du climat comme l'ensemencement des nuages ou la réflexion des rayons du soleil. Alors pour mener cette interview, mon camarade du mercredi, Julien Bisson, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, merci de m'accompagner et avec nous également une invitée, Marine de Guglielmo-Weber. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne des sciences, chercheuse en environnement, énergie et matières premières stratégiques au sein du département armement et économie de défense. Vous nous expliquerez d'ailleurs le lien entre ces deux disciplines. Vous êtes membre de l'Institut de recherche stratégie de l'école militaire et vous faites paraître un ouvrage intitulé Le Grand Retournement que vous co-signez avec le journaliste Rémi Noyon et qui paraît aux éditions Des Liens qui libèrent. Merci d'être avec nous ce soir dans Questions du soir.
Je pense qu'avec n'importe quel marché carbone, il y a un risque de greenwashing.
Parce que ce que vous faites, c'est que vous autorisez les producteurs d'énergie fossile à continuer comme si de rien n'était. Ils vont prétendre prendre des mesures pour le climat en achetant des crédits carbone, mais en fait, ils déplacent le problème. Ils ne réduisent pas la pollution, ils négocient où elle va avoir lieu dans le monde. Dans le cas de cet accord, il y a toujours des zones d'ombre sur ce que c'est la suppression du carbone. Qu'est-ce qu'on inclut dedans? Et qu'est-ce que ça veut dire pour un projet d'être durable? Donc ces manques vont autoriser des projets qui ne vont pas avoir le résultat qu'ils prétendent avoir.
Erika Lennon, avocate qui s'exprimait depuis justement cette COP29, Marine de Guglielmo-Weber, quelle place la géo-ingénierie tient-elle dans ces négociations, mais dans les réflexions plus larges de lutte contre le réchauffement climatique? Est-ce que ce sont des méthodes sérieuses aujourd'hui ou considérées comme telles pour tenter de lutter contre ce réchauffement climatique?
Oui, alors peut-être juste pour commencer par un petit point de définition. Donc effectivement, comme vous le disiez, ce sont des techniques qui vont chercher à avoir, à exercer une modification sur notre environnement. Et cette modification, elle doit être tout à la fois intentionnelle et elle doit s'exercer à assez grande échelle. Et donc, dans cette famille de techniques, on a d'une part l'extraction du carbone atmosphérique, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les émissions de dioxyde de carbone qui sont déjà présentes dans notre atmosphère. Et ça, ce sont des techniques qui sont extrêmement bien intégrées à la gouvernance internationale du climat. Et puis, on a des techniques qu'on appelle de modification du bilan radiatif. Donc, ce sont des techniques qui ne vont pas chercher à aller traiter les changements climatiques à leur cause, à leur source, mais qui vont plutôt chercher à refroidir artificiellement la planète en jouant sur l'équilibre en fait, entre l'énergie qui est relâchée par notre planète, qui passe par-delà notre atmosphère, et l'énergie qui est capturée.
J'ai parlé, pardonnez-moi, je vous coupe, de l'ensemencement des nuages et de la réflexion des rayons du soleil. Ce sont deux options concrètes, ce sont deux options crédibles.
Donc ça, ce sont des techniques. Alors l'ensemencement des nuages, c'est un peu compliqué, mais c'est aussi une technique qu'on retrouve dans la modification de la météo, qui n'est pas de la géo-ingénierie, mais les deux techniques, l'ensemencement des nuages et plus généralement toutes ces techniques qui cherchent à jouer sur le rayonnement solaire, c'est de la modification du bilan radiatif, c'est-à-dire qu'on cherche à renvoyer dans l'espace davantage de rayonnement solaire pour refroidir artificiellement notre planète. Et en fait, ce sont des techniques qui sont à des niveaux de maturité technologique pas du tout avancé et pas du tout comparable à celui de des techniques de capture du carbone, sont plutôt des techniques qui, sauf cas exceptionnels, sont pour l'instant bloquées au stade de la modélisation numérique. Et en fait, ce sont plutôt des techniques qui, pour l'instant, projettent certains imaginaires, projettent certaines solutions, mais sans éléments concrets derrière.
Julien Bisson.
Concrètement, est-ce que, par exemple, planter des arbres, planter des millions d'arbres, c'est de la géo-ingénierie ou est-ce que ça ne rentre pas dans ce cadre-là?
Alors, il y a beaucoup de débats scientifiques sur les terminologies, justement. Généralement, quand on parle de géo-ingénierie, en tout cas, selon certains chercheurs dont je fais partie, quand on parle de géo-ingénierie, on va parler de techniques qui vont avoir d'un coup des effets très rapides sur notre environnement. Donc, typiquement, aller balancer des produits chimiques dans la stratosphère en grande quantité, on va parler de géo-ingénierie. Par contre, des actions, des techniques qui vont modifier l'environnement de manière plus graduelle, c'est-à-dire qu'on va faire des petits projets locaux par-ci par-là, typiquement la reforestation ou l'afforestation, on va parler plutôt d'ingénierie du climat. Alors, il y a des débats, et puis parfois on n'est pas d'accord, parfois on utilise les deux en synonyme, mais en tout cas, la reforestation et l'afforestation, ça peut faire partie de ce qu'on appelle l'ingénierie du climat, et ça peut rentrer dans l'ensemble des techniques ou des pratiques qui cherchent à augmenter la part de dioxyde de carbone qu'on va aller capturer et qui est déjà présent dans l'atmosphère.
Je me souviens, il y a quelques années déjà, 4-5 ans, on faisait déjà des émissions ici à France Culture, ailleurs d'ailleurs, sur la géo-ingénierie. Et on le traitait souvent avec beaucoup de distance, avec un peu d'ironie et énormément de méfiance. Est-ce qu'aujourd'hui, la géo-ingénierie est devenue un champ d'action et de recherche bien plus crédible qu'il y a quelques années?
Alors justement, c'est l'un des points principaux qu'on a cherché à aborder avec Rémi Noyon dans le cadre de cet ouvrage. C'est qu'effectivement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on parlait encore de projets d'apprentis sorciers. On avait un petit ton sarcastique quand on parlait de géo-ingénierie ou alors un ton très inquiet, préoccupé, c'est de l'hubris, on va tout dérégler, c'est n'importe quoi. Maintenant, on a des discours qui tendent à normaliser ces projets, qui tendent à en faire des options de plus en plus crédibles. On en entend de plus en plus parler dans le champ des négociations internationales sur le climat, dans différentes sphères décisionnelles. Il y a de plus en plus de rapports de la part de think tanks ou d'institutions internationales qui disent « bon, bah, pourquoi pas ? Peut-être que on en est arrivé à un stade d'urgence climatique où il va falloir donc non seulement déployer des technologies de capture du carbone de manière massive, mais peut-être aussi qu'on en est arrivé à un tel point de rupture qu'il va falloir refroidir artificiellement notre planète le temps de se mettre en place, parce qu'il y a aussi un autre problème qui est celui de la maturité technologique des techniques d'extraction du carbone atmosphérique. Pour l'instant, ce sont des techniques qui sont extrêmement peu matures. Dans leur ensemble, si on les déployait tout en même temps à leur stade de maturité actuel, on capturerait peut-être 30 gigatonnes de CO2 sur une année. Donc on n'est pas sur les 36 milliards qu'on aimerait capturer par an. Donc l'idée, ce serait peut-être, dans certaines sphères politiques, de gagner du temps avec la modification du bilan radiatif.
Julien Bisson.
Pour bien comprendre, qui sont les acteurs qui aujourd'hui sont en leadership, ou en tout cas qui travaillent sur ces questions-là? Est-ce que ce sont des États? Est-ce que ce sont des start-up? Est-ce que ce sont... Voilà, qui aujourd'hui fait les recherches qui sont les plus en pointe et les plus prometteuses de ce point de vue-là?
Alors, j'aurais peut-être une réponse différente selon le type de technologie dont on parle, parce qu'en fait, quand on parle de géo-ingénierie, on a affaire à un panel tellement diversifié de solutions qu'il faudrait les prendre une par une pour avoir une analyse détaillée. Si on prend l'ensemble de l'extraction, en tout cas la famille technique de l'extraction du carbone atmosphérique, on voit en fait une très grande diversité d'acteurs. On va avoir beaucoup de start-up qui se créent, qui surfent justement sur toutes ces dynamiques économiques de marché carbone, de revente de crédit carbone dont on est en train d'entendre beaucoup parler dans le cadre de la COP. Donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se lancent dans le captage de CO2 dans l'espoir de pouvoir aller après revendre les crédits carbone. Il y a aussi pas mal d'États aujourd'hui qui se dotent de stratégies d'extraction du carbone atmosphérique, parce qu'en fait ce sont des technologies qui sont très bien intégrées à ce projet de neutralité carbone. Le net zéro, c'est ça, c'est pas seulement réduire ses émissions, c'est pouvoir obtenir un équilibre entre ce qu'on émet et ce qu'on retire de l'atmosphère. Donc cette idée de neutralité, de net zéro, est extrêmement importante pour comprendre aussi l'essor de ces techniques dans les stratégies gouvernementales. Donc voilà, plein de financements gouvernementaux, aussi plein de financements de la part du secteur privé. Et puis quand on regarde un peu la modification du bilan radiatif, qui est beaucoup moins avancée, hein, on a beaucoup moins de financements pour l'instant, ça a quelques étapes de retard sur la première famille dont je vous parlais. Là, on va plutôt avoir surtout des fonds philanthropiques, notamment de la part des États-Unis, qui est aujourd'hui le premier État à être en train de travailler sur une stratégie nationale de modification du bilan radiatif. Donc c'est vraiment le premier État à se lancer pleinement là-dedans, qui finance aussi très largement des recherches sur la question. Et puis, voilà, il va y avoir plein de philanthropes. On va, par exemple, penser à Bill Gates, hein, naturellement, qui finance très largement les recherches dans ce domaine. Donc, généralement, on va avoir des organisations non gouvernementales comme Silver Lining, dont on entend aussi beaucoup parler, qui vont faire transiter ces fonds. En tout cas, pour l'instant, voilà, ça reste vraiment surtout la philanthropie. Et puis, ce secteur de la tech, hein, cette Silicon Valley qui cherche encore et toujours à nous fournir des solutions technologiques à nos problèmes sociétaux.
Pour nos auditeurs qui entendent modification du bilan radiatif, ça c'est, concrètement, c'est quoi ? C'est essayer de dévier, amoindrir les rayons du soleil ?
Alors, bilan radiatif, c'est ce que je vous disais, c'est l'équilibre entre l'énergie qui sort et l'énergie qui entre, globalement. Donc, soit on cherche à augmenter la part de rayonnement solaire qu'on renvoie dans l'espace, soit on cherche à augmenter la part de rayonnement qui est piégée dans notre atmosphère et qu'on n'arrive pas à libérer autant qu'on voudrait. Donc, pour le premier cas de figure, ce qui est le cas majoritaire, on va parfois fois, mettre des aérosols soufrés, enfin chercher ou envisager de mettre des aérosols soufrés dans la stratosphère, donc des aérosols qui ont un effet réfléchissant et qui vont renvoyer directement le rayonnement solaire quand il entre dans l'atmosphère. On peut chercher à éclaircir les nuages, donc par cette technique que vous citiez plutôt d'ensemencement des nuages. En fait, on va stimuler le processus de condensation dans le nuage et on va multiplier le nombre de gouttelettes qu'il y a dans le nuage. Et plus il y a de gouttelettes, plus le nuage est réfléchissant. Ça va réfracter la lumière, le rayonnement solaire. Et donc, ça va encore une fois abaisser la température planétaire. On peut aussi faire ça, en fait, avec toutes les surfaces. On peut chercher à éclaircir nos océans en mettant des petites bulles ou des petites billes réfléchissantes dedans. Et puis, parfois, on cherche plutôt, donc, comme je vous le disais, à relâcher davantage de rayonnement, donc soit terrestre, soit solaire, mais qui est piégeant dans notre atmosphère. Et il y a notamment un point qui est envisagé, c'est celui d'amincir les cirrus. Donc, ce sont des nuages très épais qui capturent beaucoup, qui ne laissent pas forcément transiter le rayonnement. On va chercher à les amincir ou à les faire disparaître pour pouvoir relâcher plus de chaleur.
Nous avons souhaité, avec l'équipe de Questions du Soir, vous faire entendre une archive de 1972 et la voix de François de Closet. On aura peut-être un premier indice sur le lien que vous entretenez avec le domaine militaire.
Une fois de plus, il s'agit de recherches pacifiques qui sont reprises à des fins guerrières, car les aviateurs que nous allons découvrir dans cet avion, eux, ne partent pas du tout à l'assaut de position ennemie. Ils partent attaquer ou s'entraîner à attaquer des ouragans. Alors très schématiquement, il va s'agir de faire crever un nuage en répandant dans ce nuage, depuis l'avion, certaines substances. Et on va artificiellement provoquer la pluie. Alors il y a probablement une arme tactique, si vous voulez, parce que pour faire crever un nuage, il faut qu'il y ait un nuage. Si on veut par exemple lancer une opération de bombardement, eh bien on provoque la pluie pour gêner la défense anti-aérienne. C'est un peu comme cela. Alors, à l'heure actuelle, au Vietnam, c'est la mousson. Depuis le 10 juin, la saison des pluies, il y a toujours d'énormes concentrations de cumulonimbus. Et dans ces conditions, évidemment, le terrain, où le ciel se prête à ce genre d'opération.
François de Closet qui évoque l'opération militaire de guerre météorologique menée par l'armée américaine. Vous avez souri, Marine de Guglielmo-Weber, lorsque vous avez entendu ce terme, cette expression même de recherche scientifique. Pourtant, quel est le lien historique établi entre la recherche en géo-ingénierie et le domaine militaire?
Oui, alors c'est une excellente question. En fait, si on remonte un peu le temps et qu'on cherche vraiment à identifier l'essor massif des financements, des recherches dans le domaine alors de la modification du climat, mais aussi de la modification de la météo, on remarque que ces recherches-là, elles trouvent d'abord leur source dans des ambitions militaires, dans des envies de trouver une forme de supériorité opérationnelle vis-à-vis des ennemis. Et donc effectivement, dès les années 40 et 50, on a commencé à avoir de plus en plus de financements affluer vers ces recherches de modification du climat et de la météo. Donc on cherche, alors c'est notamment le cas dans le cadre de la guerre froide, c'est-à-dire que il y a une lutte, il y a une course à l'espace qui se met en route entre les deux blocs, mais en fait cette course à l'espace, elle se double d'une course au contrôle du climat, parce qu'on se dit qu'en fait le premier État à contrôler l'espace sera en mesure de contrôler les phénomènes climatiques sur Terre, et donc on pourra peut-être aller provoquer des sécheresses chez les États qu'on aime un peu moins. Donc il y a déjà cette dynamique-là.
D'où les recherches pacifiques.
Voilà, c'est extrêmement pacifique comme objectif. Donc en parallèle, il y a aussi ces recherches en modification de la météo. Et donc justement, le procédé d'ensemencement des nuages, il naît dans les années 40, dans un laboratoire de General Electric. Et il est créé par des chercheurs qui sont financés par les forces armées américaines. Et donc, effectivement, il va être utilisé dans le cadre de la guerre du Vietnam par les États-Unis qui ont ce slogan, enfin l'armée américaine qui a ce slogan « Make mud, not war », donc « Faites de la boue, pas la guerre », qui va chercher à enliser les déplacements ennemis en exacerbant le phénomène de mousson. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que les forces armées françaises ont également utilisé ce procédé lors de la guerre d'Indochine. Et on a fait exactement la même chose dans les années 50.
On comprend mieux désormais votre rattachement. Julien Bisson, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui encore, les recherches qui sont menées sur la géo-ingénierie comportent un volet géopolitique, en tout cas des enjeux de rivalité entre États ?
Alors, on a une convention qui s'appelle la convention EnMod, donc qui a été justement adoptée à la fin des années 70 à la suite de ces dérives militaires, qui prohibe tout usage militaire des techniques de modification de l'environnement. Alors, elle n'a pas été ratifiée par l'ensemble de la communauté internationale, il me semble qu'on est à 77 États, mais ça a signé quand même la fin de cet emballement en matière de recherche purement militaire. Ça ne veut pas dire que les forces armées ont arrêté de faire des recherches dans ce domaine-là, puisque, en fait, dans les années 90, il me semble en 96, l'armée de l'air américaine sortait à nouveau un rapport qui disait bah, ce serait pas mal de contrôler complètement la météo d'ici 2025 pour pouvoir encore obtenir de la supériorité opérationnelle sur les ennemis. Donc, on est quasiment sûr que un certain nombre de forces armées continuent les recherches en la matière. Maintenant, il peut y avoir aussi des formes de rivalité un peu moins directes. Donc, je pense notamment à des rivalités telles que celles qu'on peut observer entre la Chine et l'Inde. La Chine, aujourd'hui, elle s'est dotée du plus grand programme de modification de la météo au monde. Donc là, on n'est pas dans la géo-ingénierie, mais on est dans ces techniques qui sont cousines, hein, qui sont donc là, en l'occurrence, l'ensemencement des nuages. Et donc, on n'est pas sur du militaire pur, mais la Chine utilise ces techniques pour sécuriser ses ressources hydriques. C'est-à-dire qu'elle cherche à dériver une partie des ressources hydriques, donc cette fois pas au sol, mais plutôt dans l'atmosphère, dans ce qu'on appelle les rivières atmosphériques, des courants de vapeur d'eau. Et donc elle cherche à faire dériver une partie de la mousson indienne vers le nord de son territoire, qui est en proie à des sécheresses. On n'est pas sur du militaire pur, mais il y a une logique d'accaparement des ressources hydriques derrière, qui produit beaucoup de friction avec l'Inde.
On vous écoute avec attention, Marine de Guglielmo Weber, et on se dit qu'en vous écoutant, si l'on est capable de modifier le climat, les effets du climat dans quelques années, on n'a pas forcément intérêt à changer de mode de vie, de mode de production, de mode de consommation. La géo-ingénierie, c'est une incitation à ne pas agir ?
Je pense qu'il y a un peu de ça, clairement. Alors, il y a des débats scientifiques sur la question, mais effectivement, un certain nombre d'analystes considèrent que plus on agite cette option, cet espoir et cette promesse technoscientifique de pouvoir en finir avec les changements climatiques par un simple dispositif technique, plus on agite cette promesse, moins les dirigeants ont envie d'agir. Et je pense que c'est partiellement vrai, et que aujourd'hui, ce qu'on a pu constater, c'est que la propagation vraiment et le lobbying très fort, notamment en faveur de l'extraction du carbone atmosphérique dans le cadre des négociations internationales sur le climat, ça a en partie sapé un certain nombre d'efforts d'atténuation qui étaient nécessaires, qui étaient attendus, mais qui se sont un petit peu ramollis, qu'on a essayé de moduler. Typiquement, aujourd'hui, on ne cherche même plus à réduire nos émissions. Proprement, on cherche à réduire les émissions dont on ne pourra pas disposer a posteriori. C'est cette distinction entre les émissions abated et unabated qu'on retrouve dans les accords sur le climat depuis quelques années. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas atténuer par la suite, ce qu'on ne peut pas aller capturer dans l'atmosphère, on va essayer de faire des efforts pour ne pas l'émettre a priori. Par contre, ce qu'on peut capturer, on ne va pas se priver de l'émettre.
Julien Bisson.
Oui, vous nous aviez dit que pour l'instant, les résultats de ces recherches étaient assez modestes. Si demain, les travaux en géo-ingénierie nous permettaient de mettre un voile solaire au-dessus de la Terre qui ralentirait fortement le réchauffement climatique, est-ce que ça veut dire qu'on serait sauvé ? Est-ce que ça veut dire que ça vaut tous les efforts qui seraient menés de ce point de vue-là ?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, si, disons que demain, on arrive à refroidir artificiellement la planète et donc à annuler l'effet réchauffant, on ne sera pas privé de l'ensemble des autres dérèglements qu'on a provoqués dans notre environnement et des limites planétaires. Il y en a 9, on en a franchi 6. Donc il n'y a pas que le changement climatique. On a aussi une crise de la biodiversité notamment qui nous met quand même pas mal dans l'embarras. Et ce refroidissement artificiel, il ne va pas, guérir tous nos maux.
Et là-dessus, je cite un extrait de votre livre, L'autre grand danger de la géo-ingénierie. Et que nous écrasions la débâcle écologique sur le seul facteur climatique en négligeant des questions comme la biodiversité ou l'acidification des océans.
Oui, tout à fait. Et donc cette modification du bilan radiatif, elle ne va pas empêcher l'accumulation de dioxyde de carbone dans notre atmosphère. Et cette accumulation, elle engendre plein d'autres problèmes, notamment Donc, comme vous le citiez, l'acidification des océans, qui fait qu'on a des pertes massives dans la biodiversité marine, au sein de la biodiversité marine. L'accumulation de CO2 dans l'atmosphère a aussi de gros impacts sur la couverture nuageuse. Et donc, ça a tendance à provoquer l'affinement des nuages. Et à terme, si on a plus de nuages, bien le rayonnement solaire, on va se retrouver en fait avec l'effet inverse de ce qu'on cherche à obtenir avec la modification du bilan radiatif. Et puis, en fait, on oublie tous les effets néfastes de notre industrie fossile et notamment extractiviste qui cause plein d'autres problématiques. Donc, il y a ce problème-là. Et puis, l'autre problème, pour aller un peu plus vite, c'est aussi qu'on va devenir dépendant d'un dispositif technique. C'est-à-dire qu'en fait, on va un peu mettre notre système atmosphérique sous respirateur. Et si demain, on n'arrive plus à alimenter ce dispositif technique parce que, je sais pas, il y a un conflit, parce qu'on n'a plus d'approvisionnement énergétique, pour plein de raisons, parce qu'on se rend compte que ça a tellement d'effets néfastes qu'en fait, on peut pas continuer. Donc là, je parle vraiment de modification du bilan radiatif. En fait, si demain, on arrête ce dispositif, on va en fait être confronté à ce qu'on appelle un choc terminal. Donc c'est un terme qui fait, une expression qui fait assez peur et en fait qui renvoie à cette idée que si par exemple on masque pendant 50 ans le réchauffement climatique et qu'on l'arrête d'un coup, ce réchauffement qu'on aurait dû connaître en 50 ans, on va le connaître peut-être en une décennie. Et on sait aujourd'hui que la problématique principale de la hausse des températures, c'est pas tant la hausse des températures que la vitesse à laquelle elle a lieu, parce que nos capacités d'adaptation sont directement compromises. Et donc là, il y a un certain nombre de recherches qui commencent à s'inquiéter du fait que un tel choc terminal en fait engendrerait des extinctions encore plus massives au sein de la biodiversité.
Pourquoi dites-vous, expliquez-vous que ces technologies portent en elles-mêmes un risque géopolitique, un risque de conflit entre États, entre organisations?
Alors, il y a peut-être deux choses. La première chose, c'est un peu ce que je commençais à esquisser avec cette histoire de Chine et d'Inde, c'est la question des effets transfrontaliers. Aujourd'hui, quand on imagine une technique de géo-ingénierie, je vous le disais, l'un des critères de la géo-ingénierie, c'est l'échelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer une technique de géo-ingénierie qui n'ait d'effet que sur un territoire national. Ça va forcément avoir un effet sur la région, voire sur l'ensemble de la planète. Ça va forcément avoir des effets sur des États qui n'auront peut-être rien demandé, qui n'auront pas consenti à l'intervention climatique, mais qui vont se retrouver en fait à pâtir de certains dérèglements sur le système des précipitations, parce que quand vous jouez avec les échanges thermiques, forcément vous affectez le cycle de l'eau, le régime des précipitations. Peut-être que certains États vont connaître des sécheresses ou des pluies diluviennes. Enfin voilà, il y a plein d'effets en cascade qui peuvent être provoqués par ces techniques, dont on ne commence seulement à connaître que une très fine partie. Donc il y a cette question des effets transfrontaliers, c'est-à-dire que dès qu'on va se mettre en route sur la géo-ingénierie, forcément certains États vont subir des effets et vont peut-être s'accuser mutuellement d'être responsables de certains dérèglements. Et puis il y a la question même du principe, puisqu'aujourd'hui on a une communauté internationale qui est très fortement polarisée autour de cette idée de géo-ingénierie. Certains États la promeuvent et d'autres vont dire « non, c'est pas ça la solution, c'est d'arrêter les énergies fossiles ».
Merci beaucoup Marine de Guglielmo Weber. Je rappelle que vous êtes historienne des sciences, chercheuse environnement, énergie et matières premières stratégiques au sein du département armement et économie de défense, l'AED. Vous êtes l'autrice avec Rémi Noyon, le journaliste Rémi Noyon, journaliste à l'Obs, du grand retournement qui a paru aux éditions des Liens qui libèrent. Et Julien Bisson, qu'est-ce que l'on trouve, qu'est-ce que l'on découvre même cette semaine dans l'hebdomadaire Le 1?
Eh bien, on se pose la question, la gauche fait-elle fausse route? Question de stratégie et réponse avec Gérard Noiriel, Salomé Saké, Samuel Ayat ou encore Yasha Munk.
Plein de réponses prometteuses. Merci également à toute l'équipe de Questions du Soir. Stéphanie Villeneuve, Mathias Mégy, Bertie Bourdon, Fanny Richer, Pascaline Bonnet, Florian Le Calvez à la réalisation comme chaque soir, François Richer et aux manettes ce soir, Alexandre Dang.
Vous êtes bien sur France Culture. Bonjour, c'est Marina Carrère-Dancos. Gisèle Pellico, victime de viols sous soumission chimique, des enfants sidérés durant les abus qu'on leur impose, des centaines de milliers de personnes restent traumatisées par ces violences sexuelles, avec des conséquences graves pour leur santé mentale et physique. Dans un podcast de 6 épisodes, je vous propose de parler mémoire traumatique, amnésie, dissociation, mais aussi prise en charge et réparation, entretien avec Muriel Salmona, psychiatre.
Un podcast en 6 épisodes à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Découvrez l'exposition La Grande Expédition au 104 Paris avec la Fondation Tara Océan. Explorez les enjeux environnementaux et poétiques liés à l'océan. À travers les œuvres de plus de 40 artistes, de Sebastião Salgado à Pierre Huyg. Une exposition qui invite au voyage et qui dévoile la richesse et la fragilité du plus vaste écosystème sur Terre. La Grande Expédition, rendez-vous au 104 Paris jusqu'au 2 mars. Une exposition France Culture.
Tout vous conseille, tout vous incite de rester à l'écoute de France Culture, car vous avez rendez-vous désormais avec Serge Effèze, psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste. Il est interrogé pour la 3e fois cette semaine et comme chaque soir par Corinne Renoux, Nativelle. C'est l'heure d'Avoix Nues.
Avoix Nues, Corinne Renoux, Nativelle. Cette semaine avec...
Serge Effèze, psychiatre, psychanalyste, thérapeute familial.
Troisième épisode, une pratique au quotidien. Bonsoir Serge Effèze.
Bonsoir.
Hier, vous avez évoqué les différents engagements qui ont prévalu à votre parcours professionnel. De l'engagement auprès des malades du sida a découlé votre engagement sur la question de l'homoparentalité ?
Oui, on peut dire les choses comme ça, effectivement, parce que déjà, ce qui apparaissait comme une injustice flagrante au moment du sida, eh bien, c'était la non-reconnaissance de la conjugalité homosexuelle et le fait que des compagnons pouvaient se voir dans un état de veuvage, disons les choses comme elles sont, du jour au lendemain, sans aucun droit, par rapport à... quelqu'un avec qui ils avaient parfois partagé leur vie pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, comme si ça n'avait pas existé, comme si ça n'existait pas socialement. De la même façon que la question de la parentalité, qui se posait beaucoup, hein, qui existait déjà, surtout chez des femmes homosexuelles qui avaient des enfants, seules ou en couple, enfin, c'était pas, elles n'ont pas attendu les lois pour pouvoir avoir des enfants, mais qu'aucune reconnaissance n'existait par rapport à l'enfant de la compagne d'une mère qui avait élevé cet enfant depuis la naissance. Donc, si vous voulez, ces injustices-là, elles étaient flagrantes dès ce moment-là. Et comme mon intérêt pour la famille était évident depuis le début, eh bien, les choses ont commencé à s'organiser dans ma tête autour de ça. D'autant que moi-même, j'étais arrivé à un moment de ma vie où j'avais rencontré la femme de ma vie, je m'étais marié, j'avais eu un enfant, puis un autre enfant. Donc, évidemment, la question de la famille, j'étais très, très, très sensible à ça. Mon meilleur ami dans ces années-là s'appelait Arnaud Marty-Lavezelle. Il a été président de l'association Aide pendant des années. Il est mort lui-même des conséquences du sida quelques années après. Et il avait appris sa contamination au moment où moi j'apprenais que j'allais être père de mon premier enfant. Ça s'est passé en même temps, quasiment le même jour. Et pour moi, c'est resté comme quelque chose d'extrêmement marquant, que j'avais quelque chose à venger de ça, de cette histoire-là, finalement. Je me sentais un peu, par rapport à lui, c'était comme mon frère, et je me sentais projeté dans un autre univers par rapport à celui dans lequel il était. Bref, cette question de l'homoparentalité, elle a émergé, assez curieusement d'ailleurs, puisque j'ai été appelé par un journaliste qui m'a posé la question et qui a dit « Mais qu'est-ce que vous pensez de l'homoparentalité, de la famille homoparentale et de la possibilité pour des couples homosexuels de fonder une famille ?» Et je vous avoue, malgré tout ce background que j'avais, j'y avais pas pensé. Je suis tombé de ma chaise, je me suis dit « Mais pourquoi est-ce qu'il me pose une question aussi bizarre ?» Surtout que mes amis gays, c'était pas des gens qui avaient envie de fonder des familles. Ils avaient envie de s'amuser, de libérer leur sexualité, de libérer leur vie. Mais c'était pas ça qui venait en tête. Et je me suis dit, tiens, quelle drôle d'idée. Eh bien, figurez-vous que, par hasard des choses, 15 jours après, et c'est souvent comme ça dans ma vie, je reçois un coup de fil. Et ce coup de fil, c'est deux mamans qui veulent venir me voir avec leurs enfants. Et je reçois ces deux femmes. Une d'elles avait adopté une petite fille au Vietnam, si je me souviens bien, et l'autre avait, par PMA, un peu bricolé à l'époque, eu un petit garçon, et elles s'étaient rencontrées, et elles avaient fondé cette famille. Et il y avait des petits problèmes au moment de la préadolescence du garçon, pas des choses très graves, mais peu importe. Mais cette famille a été fondatrice pour moi, parce que j'ai vu que c'était une famille, et qu'il y avait de la famille. Alors qu'on était tellement loin de la famille PMA procréatrice avec un monsieur et une dame qui font des enfants sous la couette. C'est-à-dire qu'on était dans une situation où il y avait de l'adoption, il y avait de la procréation médicalement assistée, il y avait de la recomposition, il y avait un couple homosexuel de deux femmes, et ça circulait, et c'était incontestablement une famille comme toutes les familles, avec les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes joies, les mêmes types de liens. Et c'est là où j'ai senti qu'il fallait travailler de ce côté-là. C'est-à-dire, il fallait faire en sorte, parce que c'est très bien de s'aimer, mais qu'il y a besoin de sécurité dans une famille, et qu'il y a besoin de consolider des liens. Et que c'est ça qui est important, c'est-à-dire que ça soit reconnu socialement, c'est-à-dire aussi par les lois de notre République. Et donc, effectivement, avec d'autres, j'ai beaucoup milité, si on peut dire les choses comme ça, à ce moment-là, pour la reconnaissance du mariage homosexuel et pour la reconnaissance de la filiation dans les familles homoparentales. Et là, ça a beaucoup frité chez les psys, il faut bien dire ce qui est. Hein. C'est-à-dire que je me suis retrouvé sur les bancs de l'Assemblée nationale avec les psys pour et les psys contre, et les psys contre jetant l'anathème sur ces familles en disant que tous ces enfants allaient devenir psychotiques, que s'ils n'avaient pas un père et une mère, ben, ils étaient fichus pour le reste de leur existence et leurs enfants après. Enfin bon, c'était des choses ahurissantes qu'on entendait à ce moment-là. Et donc, il a fallu ferrailler, et ferrailler à coup d'arguments psy. Or, quels sont les arguments qui vont, disons, dans le sens de cette reconnaissance de l'homoparentalité ? Non seulement que c'est un état de fait, non seulement que l'homosexualité n'est plus une maladie mentale depuis quelque temps et qu'elle a une reconnaissance sociale, mais aussi que l'ensemble de la société est en train de se restructurer autour de ces questions du masculin et du féminin, de ce qui va venir après autour de ces questions d'identité de genre. Non pas du tout les questions transidentitaires, mais autour de qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'un père, qu'est-ce que c'est qu'une mère ? Qu'est-ce qui relève de la nature des compétences d'un homme et d'une femme, d'un père et d'une mère, dans la structure familiale ? Et on voit que ces questions-là, elles sont en mouvement dans toutes les familles. Et que les familles homoparentales ne sont que, comment dire, presque le paradigme de ce type de représentation. C'est-à-dire qu'on est dans un mouvement d'égalité dans la famille, on est passé de la puissance paternelle dans les sociétés traditionnelles à l'autorité conjointe des deux parents au sein de la famille. Ça veut dire que ce qu'une mère peut faire, un père peut le faire, ce qu'un père peut faire, une mère peut le faire. La construction sociale des savoir-faire et des compétences masculines et féminines, elles sont bien évidemment d'ordre culturel et d'ordre social. Eh bien, on voit qu'il s'agit avant tout de considérer les parents comme des parents, avant d'être un père ou une mère, d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est ce processus de parentalisation dont on a commencé à beaucoup parler à ce moment-là. La parentalité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la parentalité, elle transcende finalement la question de la paternité et de la maternité. Et donc, toutes ces questions-là, elles traversent toute la société, et la famille homoparentale n'en est qu'un des aspects.
Plus tard, on vous retrouvera sur la question de la radicalisation islamiste, sur la transidentité. Oui. Qu'est-ce qui vous situe au cœur, Serge Hefes, de ces questions ?
Ce qui a toujours animé mon travail, c'est d'observer, bien évidemment, ce qui se passe dans la société et d'observer ce que les gens me disent, la façon dont ils se présentent, quelles sont leurs préoccupations et comment ces préoccupations trouvent une chambre d'écho ou pas dans le moment sociétal dans lequel on est. Donc la question de la toxicomanie s'est posée de cette façon, puis la question du sida s'est posée de cette façon, puis la question effectivement de l'homoparentalité découle de ça, c'est-à-dire elle découle de ce que les vrais gens viennent exposer de leurs problématiques et de leurs souffrances dans mon cabinet ou dans mes consultations à l'hôpital. Elle ne découle pas d'intérêt théorique que je pourrais avoir, je ne sais pas, pour la névrose obsessionnelle ou pour la psychose maniaco-dépressive ou des choses comme ça. Ce qui anime, je le dis sans jugement, mais enfin, ce qui anime le travail de beaucoup de psys. Moi, mon travail, il part vraiment du terrain. Il part des besoins et des transformations de notre société. Donc la question de la radicalité, elle s'est posée aussi sans que je la voie venir. C'est-à-dire que j'avais une copine anthropologue qui s'appelle Dounia Bouzard, avec qui j'avais travaillé un article sur les femmes et l'islam ensemble. Et elle vient taper à ma porte, elle me dit « Écoute, il se passe des choses très curieuses. C'est que j'ai de plus en plus de familles qui viennent me voir, qui ne sont pas des familles musulmanes, ou en tout cas pas des familles très pratiquantes, chez qui les jeunes se convertissent de façon extrêmement radicale et qui ne savent pas comment se comporter vis-à-vis de ça, et qui commence à être extrêmement inquiète. Et moi-même, je suis inquiète parce que je vois que ces jeunes gens, ils commencent à avoir le cerveau un petit peu retourné autour des questions de l'islam radical. Et j'ai été travailler avec elle et j'ai reçu une, deux, trois familles et j'ai vu effectivement des jeunes gens qui étaient le même type que les jeunes gens dont je m'occupe depuis toujours dans le service de psychiatrie de l'ado à la Salpêtrière où je travaille depuis fort longtemps, c'est-à-dire des jeunes gens au moment de leur disons au moment de leur quête identitaire, eh bien tout à coup dévient vers cette affiliation radicale autour d'un discours extrêmement et ces jeunes gens, ils me paraissent pas très différents de jeunes gens qui, autour de l'adolescence, commencent un processus d'anorexie mentale, des tentatives de suicide, des scarifications, etc. C'est-à-dire, sont en quête d'eux-mêmes et ont du mal à trouver une voie et à résoudre ce questionnement identitaire qu'ils sont en train de se poser. Et je voyais des familles dans lesquelles le processus d'autonomie de ces jeunes était un peu enrayé, un peu en difficulté. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises familles, ça veut dire que c'est des familles dans lesquelles qui ont été traversées par un certain nombre de traumatismes, par un certain nombre de difficultés X ou Y, qui rendent cette autonomisation du jeune compliquée. Et à ce moment-là, il trouve dans le discours radical quelque chose qui va lui paraître une voie pour se désaffilier de sa famille, ce que tous les adolescents doivent faire. Il va s'affilier à ce discours radical. Et je me suis mis à étudier avec Dounia les processus de recrutement de Daesh et j'ai vu que c'était absolument redoutable. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'amener ces jeunes à un processus de déshumanisation progressif et un processus de détachement par rapport à ce qu'ont été leurs valeurs depuis toujours qui est absolument sidérant et très rapide. Enfin, très rapide, ça prend plusieurs mois, mais enfin, c'est pas non plus des années. Et petit à petit, pardonnez-moi l'expression, on leur retourne le cerveau. C'est-à-dire qu'ils commencent à fonctionner avec tout à fait une autre, d'autres idiosyncrasies que celles qui ont été les leurs jusque-là. Et donc, je dirige l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'adolescent, donc à la Salpêtrière, depuis de très nombreuses années, et j'ai proposé qu'on crée une consultation spécifique autour de ces familles et de ces jeunes, les familles étant totalement déroutées par ce qui était en train de se passer. Et là, j'ai plongé dans un autre monde et d'autres réalités qui sont celles des réalités géopolitiques beaucoup plus complexes, évidemment, autour de cette question de l'islam radical, dont je suis loin d'être un spécialiste. Mais disons que le petit bout de la lorgnette par lequel j'ai vu ça, c'est ces jeunes-là qui n'avaient pas d'autres raisons que des raisons psychologiques d'entrer dans ce processus de radicalisation. Il y a évidemment des tas d'autres façons d'entrer dans la radicalisation qui s'éloignent de la psychologie, mais enfin, c'était celle-là qui, évidemment, m'intéressait.
Et c'est par espace, Serge Fès, que vous intéressez à la transidentité ? C'est un sujet qui s'impose à vous ?
Oui, oui. Alors ça aussi, de la même façon. Alors espace, c'est quoi ? Espace, c'est donc cette unité psy consacré au VIH au départ, mais les années passant, heureusement, Le VIH est devenu beaucoup moins inquiétant qu'il ne l'était. Les gens étaient soignés, les gens ne mouraient plus. On n'avait plus à accompagner des fins de vie, des deuils, des situations psychiques catastrophiques. Et donc, la prise en charge du VIH est devenue plus tranquille, on va dire. C'est-à-dire qu'il s'agissait de soutenir les gens dans une maladie chronique qui devenait de moins en moins compliquée, de moins en moins invalidante. Mais notre spécificité, c'est qu'on est j'en parle au présent parce qu'on existe toujours, on est une unité de psychiatres et de psychologues, une unité qui est une émanation du service public, de la psychiatrie de secteur, et en même temps, on est très en lien avec le monde associatif. On a commencé avec ACT UP, avec AIDE, avec les associations de lutte contre le sida, avec les associations d'autosupport de toxicomates, avec les associations qui s'occupaient de prostitution, bien évidemment. À l'époque, de sortants de prison, des étrangers en situation irrégulière. Si vous voulez, toutes ces associations qui ont du mal à s'adresser aux grandes institutions et pour qui une petite institution comme celle-là, beaucoup plus souple, est une aide précieuse. Et on est un peu la jonction, finalement, entre la psychiatrie traditionnelle et ce secteur associatif. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, on s'occupait bien évidemment de non pas de transidentité à l'époque, mais disons de transsexualisme, c'est-à-dire de travailleurs du sexe, du Bois de Boulogne, pour qui la question de la prévention du VIH, voire de la maladie VIH, était très présente. Et comme on s'entend plutôt bien avec les associations et qui nous font confiance, eh bien, petit à petit, on a vu arriver des demandes autour de la transidentité qui n'avait plus rien à voir avec le VIH, qui n'avait plus rien à voir avec la prostitution, mais qui était le nouveau visage de la transidentité tel que les associations commençaient à le percevoir. Et donc, on a commencé à voir arriver, effectivement, ces jeunes de 17, 18, 19, 20 ans dans ce questionnement transidentitaire et dans une demande d'aide autour de la transidentité. Donc, vous l'aurez compris, j'ai deux pieds dans le monde institutionnel. Un pied, donc, à Espace, qui est de la psychiatrie adulte, et l'autre pied à la Salpêtrière, qui est de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et à la Salpêtrière, se mettait en place une consultation pour les adolescents autour de la question de la transidentité, dont s'occupait le patron, David Cohen, et Agnès Conda, qui chapeautait cette consultation. Et donc, moi, je m'occupe que des familles à la Salpêtrière. On a commencé à m'adresser des familles avec des jeunes en transition qui étaient suivis à la consultation. Donc, d'un côté, j'avais les ados en transition à la Salpêtrière et de l'autre côté, les jeunes adultes en transition à Espace. Et tout ça a été très vite. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, on a vu surgir des mots comme épidémie, enfin des mots absolument terribles autour de cette question-là. C'est qu'il y a eu une véritable... Allez, on va dire simplement augmentation pour pas parler d'explosion ou de raz-de-marée parce qu'il faut rien exagérer non plus. Mais enfin, en tout cas, un véritable bouleversement sociétal autour de ces questions-là.
À quelle date ?
Oh, écoutez, ça date d'il y a... Je dirais que cette augmentation, c'est dans les années 2007-2008. Ça commence là, puis ça monte progressivement en puissance.
Serge Effès, comme on l'a vu, vous avez plusieurs casquettes, psychiatre, psychothérapeute, psychothérapeute familial, psychothérapeute de couple, psychanalyste. Est-ce que ces casquettes, elles sont associées à un lieu ou est-ce que ce sont des outils que vous utilisez en fonction des situations ?
C'est à la fois des lieux et des outils. Alors j'ai un cabinet dans lequel je pratique majoritairement la psychanalyse, parce que la psychanalyse appelle le confort d'un cabinet, pas forcément d'un divan, mais enfin, parfois d'un divan. C'est plus intime, et puis il y a la question du paiement. Enfin bon, tout ça est un petit peu différent. Donc, à mon cabinet, je pratique surtout la psychanalyse et la thérapie de couple, qui est en fait encore une autre de mes casquettes qui serait entre la psychanalyse et la thérapie familiale, disons. Donc, des couples, des personnes seules. Il va de soi que dans ma pratique à l'hôpital ou à Espace, c'est pas la psychanalyse qui prime, mais la psychanalyse en tant que pratique. Parce que pour moi, la psychanalyse, c'est être psychanalyste. C'est-à-dire, c'est être psychanalyste dans tous les lieux où l'on exerce. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être psychanalyste dans tous les lieux où on exerce ? C'est s'appuyer et être extrêmement attentif à la question du transfert et du contre-transfert. C'est-à-dire comment c'est notre personne en tant que telle, avec notre histoire, notre passé, dont je vous parle, là, depuis quelque temps. Tout notre background, tout ce qui nous a construit, notre analyse personnelle, nos lectures, etc., et nos a priori, nos préconçus, comment tout ça nous anime dans la rencontre avec l'autre et de quelle façon ça intervient dans la relation et dans ce qui est proposé. C'est-à-dire, c'est pas un savoir universitaire qui nous aide, même si, évidemment, on lit des bouquins et que c'est important, mais c'est pas ce savoir-là qui nous aide quand on reçoit des patients. C'est notre personne qui rentre en vibration avec une autre personne. Et c'est ça qui nous permet d'entrer dans son monde intérieur, à cette personne, ou à ce couple, ou à cette famille. Et ça, qu'on soit à l'hôpital, ou qu'on soit dans un cabinet, ou qu'on soit dans la rue, eh bien, c'est toujours ça qui prime. Donc, si vous voulez, toutes ces pratiques-là, elles sont quand même animées avant tout par ça, c'est-à-dire par ce travail intérieur incessant autour de ce qui nous construit et de ce qui nous anime.
Et comment trouvez-vous, Serge Hefes, la bonne distance avec le patient ?
Eh bien, c'est justement à partir de ce précepte-là, c'est-à-dire ce patient, il est autre, mais il a des points qui entrent en résonance avec ma propre expérience et avec ma propre perception des choses. Alors, comment je vais m'appuyer sur cette résonance pour ne pas lui imposer un préconçu ou un prépensé, mais en même temps sentir ce processus un peu de reconnaissance, de compréhension, d'empathie, disons, même si tous ces mots ont leurs limites, qui me permettent d'entrer dans son monde intérieur et de saisir, avant que lui ne puisse le faire, parce qu'il n'a pas analysé les choses à ce point, pour trouver le point d'appui qui va permettre la rencontre avec lui, la rencontre avec son monde, avec son univers.
Vos parts fragiles, celles qui vont résonner avec la souffrance du patient, sont un atout pour vous, Serge Hefes ?
C'est un atout si on a travaillé dessus, si on en a conscience, si justement soi-même on n'est pas écrasé par ça à ce moment-là, et donc si on peut l'utiliser pour le transformer et pour aider le patient dans ce processus de transformation.
Est-ce que vous avez parfois l'impression d'être en échec avec certains patients ?
Bien sûr. Je dirais que, voilà, il y a des patients qui m'interpellent plus que d'autres et d'autres qui vont me paraître plus étrangers, pour qui je ne vois pas quel va être le point d'appui qui va me permettre de les rencontrer. Mais parfois, c'est très provisoire, c'est-à-dire que ça prend du temps. Parfois, il faut beaucoup de temps pour que cette rencontre ait lieu effectivement et qu'un processus se mette en place. Et puis, il y a des fois où on n'y arrive pas, soit parce que les résistances du patient sont beaucoup trop fortes. Vous savez, c'est difficile le changement. La plupart des patients vont plutôt dans le sens de la répétition que dans le sens du changement. Alors on est là pour aller contre ce mouvement-là. On lutte contre les répétitions mortifères qui s'installent depuis toujours. Mais parfois, on n'y arrive pas. Et donc parfois, oui, c'est un échec.
Et un suicide d'un patient, c'est forcément un échec ?
C'est douloureux. Je touche du bois parce que je suis sur une chaise en bois. Je n'ai pas eu de patients qui se sont suicidés pendant leur parcours avec moi. J'ai un patient qui a fait une défenestration, qui était un patient que je suivais depuis quelque temps et pour qui j'étais très ennuyé, mais qui était très difficile, qui était toxicomane. Enfin bon, bref, peu importe. Il s'est défenestré, mais il n'est pas mort. Et quand il est sorti de l'hôpital, il est revenu me voir et ça a duré des années. Et après, il allait mieux. Évidemment, le suicide d'un patient, c'est un coup dur.
En 2010, Serge Hefes, pour un livre intitulé « Pourquoi je suis devenu psy », vous me confiez que Jean Clavreul, votre superviseur dont vous avez parlé, vous avait dit que vous souleviez les patients. Pouvez-vous expliquer ce que ça signifiait ?
Oui, alors effectivement, j'ai commencé une supervision psychanalytique avec Clavreul, qui était un grand psychanalyste et puis très, très original avec sa propre pensée. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce qui se jouait dans la dynamique transférentielle avec mes patients. Un jour, par exemple, j'ai eu un blanc. J'arrivais plus rien à lui dire, rien à associer, et j'étais très démuni face à cet homme à qui il fallait que je dise quelque chose, et je savais pas quoi lui dire. Il me dit, mais vous êtes exactement dans la situation de votre patiente. Elle sent toujours qu'elle a quelque chose à vous fournir en permanence pour vous remplir et pour se faire aimer de vous. Et là, vous êtes exactement dans la même situation qu'elle. Et ça m'avait beaucoup aidé. Alors un autre jour, effectivement, je lui parlais d'une patiente. Donc je lui dis quelque chose qu'elle m'a dit, que j'aurais beaucoup de mal à reproduire aujourd'hui, c'était il y a une trentaine d'années. Et il me dit, et qu'est-ce que vous lui avez dit? Et là, je lui dis, je lui ai dit ça. Et là, il s'est arrêté, il m'a regardé. Il m'a dit, mais vous savez, vous êtes incroyable, vous, parce que j'ai beaucoup de jeunes analystes en formation comme vous, et quand ils décèlent une faille chez le patient, eh ben, ils ont tous le réflexe de leur enfoncer la tête sous l'eau pour leur dire, voilà, c'est là, c'est ça qui va pas, c'est ça qui va pas chez vous. Et vous, vous avez une façon de le leur dire en leur soulevant la tête de l'eau en même temps. Et ça, c'est vraiment votre force. Et j'ai compris que cette force-là, en fait, me venait des thérapies familiales et du fait que le paradigme des thérapies familiales, c'est pas tellement le symptôme et la souffrance, mais c'est la compétence. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on va chercher chez les gens ce qui leur permet la petite partie d'eux-mêmes qui est positive, qui est saine et qui peut leur permettre d'en sortir. Et que, sans m'en rendre compte, c'était quelque chose qui m'animait aussi dans la rencontre analytique avec les patients.
Est-ce que c'est toujours le plus beau compliment qu'on vous ait fait, Serge, et fait sur votre pratique?
C'est celui qui m'est resté le plus gravé, parce que ça venait d'un homme qui était un analyste qui avait beaucoup de bouteilles et qui se référait toujours au paradigme psychanalytique, en fait. Et il me disait, d'une certaine façon, que cette intégration qui est la mienne entre plusieurs approches et plusieurs types de réflexions, c'était une richesse plutôt que d'être un appauvrissement, ce que beaucoup d'analystes m'ont souvent renvoyé.
Et pour terminer, Serge Fez, pourriez-vous relater une séance qui est évocatrice de votre approche, de votre travail?
Oula, c'est difficile que vous me demandez, mais... quelque chose de récent et qui rejoint mon intérêt pour la question des PMA et de l'anonymat des donneurs. Très évocatrice pour moi. Un monsieur qui s'engage dans une thérapie, qui me dit, en première séance, j'ai un petit garçon qui, pour moi, est le soleil de mon existence, qui compte plus que tout. Grâce à lui, je me sens vivant et j'ai un but dans l'existence, d'autant que je suis séparé de sa maman. Et il ajoute très rapidement, vous savez, je dois vous dire que cet enfant est né par un don de sperme anonyme, parce que je suis stérile depuis toujours. Mais j'ai décidé de ne jamais en parler à mon petit garçon parce que je ne voudrais pas qu'il ait une confusion dans sa tête par rapport à qui est son père. Du temps passe, nous ne reparlons plus jamais de cette question-là. Et à une séance, tout à coup, il me dit « Vous savez, depuis que je réfléchis avec vous, je me rends compte d'une chose, c'est que chaque fois que je regarde mon fils, qui a 8 ans, chaque fois que je le regarde, je pense à cet homme dont il est issu biologiquement. » Alors vous voyez qu'entre « je n'y pense jamais » et j'y pense chaque fois que je le regarde, et je vois surgir ce qu'on appelle le gouffre de l'inconscient. C'est-à-dire, c'est ces pensées qui sont tellement présentes, mais qui n'affleurent pas à la conscience, et tout à coup, ça avait affleuré à sa conscience. Et là, je visualise une scène où je vois cet homme à quatre pattes avec son fils en train de jouer au train électrique et de s'amuser, comme des petits fous, là, tous les deux, et que tout à coup, il pense à cet homme, c'est-à-dire comme s'il voyait un fantôme qui traversait la pièce. Et que son regard se détache et qu'il regarde ce donneur fantomatique traverser la pièce. Et je pense à ce petit garçon qui regarde son père, dont le regard se détache, et qui se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi papa me regarde plus? Est-ce qu'il m'aime plus? Est-ce que je lui déplu ?» etc. Donc, de cette minuscule scène, qui pour moi est un peu à la rencontre de la psychanalyse que je fais avec cet homme et de ce que je visualise dans les familles, eh bien, je vois surgir toute la question du secret. Comment ça se passe, le secret? Comment ça se transmet quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on ne sait pas? Eh bien, ça se transmet comme ça, par un regard qui regarde ailleurs, par un soupir, par une gêne, quelque chose qui s'immisce dans la relation et qui crée de la culpabilité chez celui qui perçoit qu'il y a un secret, mais qui ne sait pas quel est ce secret. Donc, autant vous dire que, à la suite de cette séance, eh bien, cet homme, il a couru dans une librairie, qu'il a acheté un livre, comme on en fait maintenant, sur les petites graines et les papas qui n'ont plus de petites graines, et qu'il a raconté à son fils une merveilleuse histoire où un papa qui n'avait plus de graines avait été aidé par un très gentil monsieur et qu'on n'est peut-être pas trop de deux pour faire un aussi beau résultat que lui.
Merci beaucoup, Serge Effes. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, réalisation Félicie Faugère, prise de son Lucien Lefebvre, une série de Corinne Renoux-Nativel disponible sur le site et l'application Radio France.
France Culture.
Qu'est-ce que le mystérieux réseau Orlov ? Une Française infiltrée en RDA, une agente invisible chargée de sa protection, des sous-marins soviétiques les plus convoités au monde.
Qu'est-ce que j'y gagne ?
Vous serez celle qui aura ramené à la France l'un des secrets les mieux gardés de l'Union soviétique.
Le feuilleton Projet Orlov, saison 2. Scénario original de Tanguy Blum, Christian Brugerolle et Antoine Piombino. Réalisation Baptiste Guiton, du lundi au vendredi à 21h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Universel et solidaire, histoire de la sécurité sociale. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de trou ?
Xavier Mauduit.
Charité bien ordonnée commence par une histoire de l'hôpital pour soigner les pauvres et par celle des sociétés de secours mutuelles, à cotiser. Et voici la sécurité sociale. Elle voit le jour, heureux, en octobre 1945, mais elle est désormais confrontée à une sombre affaire de trou, une